Donc, nous allons d'abord entendre Marianne Perrault. Donc, Marianne, tu es doctorante en philosophie et en études féministes de genre et des sexualités à Penn State University, donc aux États-Unis. Tes intérêts de recherche sont la philosophie féministe et la philosophie continentale du XXe siècle, en particulier la phénoménologie. Et tu es par ailleurs assistante éditoriale de la revue Simone de Beauvoir Studies. Voilà. Donc, tu vas nous présenter une communication intitulée « La demeure et la précarité, exploration à partir de Iris Young et de Judith Butler ». Donc, je te cède la parole.
Mais je suis vraiment contente d'être ici. Et comme j'ai un texte, ça devrait rester dans les temps. Donc, le thème de la demeure fait partie des réflexions féministes pour des raisons que nous connaissons toutes. Elle est le lieu par excellence de l'oppression hétéropatriarcale que la distinction entre privé et public a servi à renforcer des siècles durant. Mais la demeure comme thème philosophique ne se résume pas à ces quelques mots. Dans ma présentation, je me propose de résumer quelques-unes des perspectives philosophiques sur la demeure et en particulier de rendre saillantes certaines divergences dans les perspectives féministes. Celles-ci me mèneront à avancer que la plurivocité des expériences de la demeure ne doit pas être réconciliée sous une seule valence, mais préservée dans cette tension. Je terminerai par quelques mots expliquant qu'une approche relationnelle permet d'illuminer cette conception de la demeure. Au cœur de ma réflexion se trouvent deux idées qui sous-tendent toute ma présentation. Je tire l'ambivalence féministe de l'essai « House and Home » de Iris Marion Young et la précarité comme dimension fondamentale de l'existence humaine des travaux de Judith Butler. La question se pose, pourquoi écrire et penser sur le thème de la demeure, ce thème qui, au premier abord, peut sembler quelque peu conservateur? Comme je l'ai mentionné, les cercles féministes ont des rapports divergents à cet espace, ce qui indique une tension non résolue. Et ensuite, la demeure est l'endroit où la plupart des individus expérimentent la plus grande période de vulnérabilité et de dépendance qu'ils et elles traverseront dans leur vie, c'est-à-dire la jeune enfance et le besoin criant de support matériel, émotionnel et psychologique de la part des parents ou adultes responsables. De plus, les changements économiques et sociaux des 20e et 21e siècles changent le visage du domestique. Neil Noddings souligne l'importance de repenser ce thème dans son livre « Starting at Home » qui date déjà d'une vingtaine d'années, qui a été publié en 2002. Elle écrit, je cite, « Lorsqu'une personne est forcée dans une ligne de travail particulier, comme presque toutes les femmes l'ont été avec le travail ménager, ce n'est pas surprenant que le travail ne soit ni apprécié ni aimé. À présent, comme davantage d'options s'ouvrent aux femmes, il est peut-être temps de réévaluer ces tâches qui, accomplies avec compétence et amour, peuvent contribuer à ordonner une communauté prenant ancrage dans les maisons, qu'elles soient riches ou pauvres. » Dans son travail, Noddings conceptualise la demeure comme l'endroit où l'on développe ou échoue à développer certaines attitudes morales comme le care. Sur cette base, penser la demeure ne se limite pas au privé, mais doit être contextualisée dans un réseau de pouvoir et de pression à plus large échelle, puisque ces attitudes encouragées et chéries à la maison sont évidemment portées au-delà du domicile dans la sphère publique. Cette plus large échelle doit aussi être comprise au plan structurel. On peut alors parler d'un monde habitable lorsque l'on fait face à des conditions environnementales et sociales hospitalières, comme le développe Judith Butler. La notion de monde habitable souligne, en outre, l'interdépendance fondamentale à toute existence humaine et non humaine, ainsi que les multiples crises qui accentuent la précarité. En abordant les thèmes de précarité, de vivable et d'habitable, Judith Butler avance que l'interdépendance est en particulier rendue saillante par la destruction de l'environnement, la pauvreté grandissante, le racisme, les inégalités à l'échelle globale et la violence, incluant la violence envers les femmes et les minorités sexuelles et de genre. Habiter un monde, selon Butler, c'est une condition d'une vie vivable. Et je cite, « Une vie se révèle invivable si le monde est inhabitable. » Invivable doit donc être entendu autant en un sens ontologique que matériel, les deux étant difficilement dissociables. À cet effet, la perte d'un domicile fixe et sécuritaire engendre des conséquences profondes sur le plan existentiel et ontologique qui sont d'intérêt pour les philosophes féministes, en particulier parce que cette perte touche en priorité les populations les plus précaires, qui subissent déjà les effets des systèmes de pression. Et ce, pour reprendre encore les mots de Noddings, parce que les effets de perdre domicile vont bien au-delà de l'inconfort causé par l'absence d'abri, et vivre dans un endroit où l'on ne peut laisser aucune marque personnelle de notre passage a aussi ses effets indésirables. En bref, les crises multiples accentuent l'instabilité liée à la demeure, la crise climatique, la pauvreté, les guerres et génocides qui forcent certains et certaines à quitter leur domicile, alors que la pandémie, au contraire, incitait à rester chez soi, aux dépens d'un sentiment de sécurité dans certains cas, si l'on se fie aux données concernant l'augmentation de la violence conjugale et des féminicides durant la pandémie. Pour ne dire que quelques mots sur le sujet, les multiples crises troublent de toute évidence le rapport à la demeure. Maintenant, quelle est l'ambivalence féministe que j'évoquais plus tôt par rapport à la demeure? Car demeure n'est évidemment pas un idéal univoque. D'une part, Beauvoir avait raison d'écrire dans Le deuxième sexe que l'espace privé confine les femmes à une plate immanence par la division genrée du travail domestique et que peu de tâches s'apparentent davantage à la torture de Sisyphe que le travail ménager avec son infinie répétition. Iris Marion Young, dans son essai intitulé « House and Home » de 1997, introduit une ambivalence en reconnaissant cette oppression et cette invisibilisation du travail domestique, mais réplique aussi que Beauvoir échoue à voir les aspects humains créatifs du travail traditionnel des femmes dans l'espace domestique. En d'autres mots, il s'agit de voir que faire demeure renferme à tout le moins une potentialité de s'accomplir dans le monde malgré l'ubiquité de l'oppression genrée. Young rappelle à cet effet la posture de Bell Hooks sur la demeure en contrepartie à la position de Beauvoir. Dans Home Place, A Site of Resistance, Bell Hooks conceptualise la sphère domestique comme lieu de création, d'amour et de résistance dans un contexte d'oppression raciale et de genre. Je cite Bell Hooks, « Parce que le sexisme délègue aux femmes la tâche de créer et de maintenir, de créer et de soutenir un environnement où l'on est chez soi, il a été principalement la responsabilité des femmes noires de construire des environnements domestiques comme espace de care et d'éducation en réponse à la réalité brutale de l'oppression raciste et de la domination sexiste. » Fin de la citation. Pour Hooks, laisser l'activité de faire demeure être ruinée par le patriarcat mine la possibilité de créer des domiciles où règne une solidarité entre femmes et noires, des espaces de solidarité qui sont supportés principalement par les mères noires. Hooks souligne l'importance d'avoir un lieu où l'oppression raciste ne pénètre pas, un lieu à soi où cultiver l'amour. Faire demeure devient ainsi un acte de résistance, la création d'un espace supportant la subjectivité et la gentilité à l'encontre d'un monde extérieur qui est fondamentalement hostile aux communautés noires en étant envahi par la logique et la suprématie de la blanchité. Dans la version initiale de cette communication, j'avais aussi inclus quelques éléments sur la pensée de l'être chez soi chez des penseurs en philosophie non, qui ne sont pas dans la tradition féministe, comme Heidegger et Levinas, qui sont d'une part en désaccord entre eux, mais aussi évidemment critiqués par les philosophes féministes, mais j'ai mis ça de côté parce que ça dépassait le temps. Donc, j'ai préféré mettre de l'avant les autrices féministes. Donc, comment réconcilier ces visions si divergentes? Une autre question serait plutôt, faut-il réconcilier ces visions si divergentes? Ma réponse est bien sûr que non. Les expériences liées à l'activité de faire demeure sont sans doute aussi plurielles que le sont les identités. Dans son article intitulé « Home and Identity » de 2008, Alison Weir répond à Iris Marion Young en défendant qu'il existe des aspects de la demeure qui valent d'être réappropriés par la théorie féministe. Mais dans cet argumentaire, Weir se concentre sur la maison comme métaphore pour la subjectivité. Elle défend qu'il faut aller au-delà des critiques et défenses pour critiquer les dichotomies elles-mêmes. La demeure peut être comprise comme le nexus de valeurs qui transcende ces mêmes dichotomies. Weir supporte qu'une vision idéale de la demeure peut être un concept régulateur. En ce sens, la demeure idéale serait le véhicule de valeurs normatives supportant l'identité personnelle et collective. Weir identifie quatre de ces valeurs. Elles sont, d'abord, le risque pris et soutenu dans les connexions et relations avec les autres. En second lieu, la formation d'identité relationnelle constituée à la fois par les relations de pouvoir et les relations de mutualité. En troisième lieu, l'autonomie relationnelle où la liberté est entendue comme une capacité à entrer en relation avec ceux et celles que nous désirons. Et finalement, une connexion temporelle à un passé et à un futur. Dans le poser en ces termes, Weir tend vers une théorie relationnelle de la demeure comme support littéral et métaphorique pour la subjectivité. J'aimerais à présent introduire ces deux valences du concept d'être chez soi qui, toutefois, tiennent ensemble ces deux éléments, la maison matérielle et la maison métaphorique. Habiter peut être défini comme l'activité proprement humaine ayant pour fin un être chez soi. À son tour, être chez soi se décline en deux sens. En premier lieu, un être chez soi matériel et corporel. En second lieu, un être chez soi ontologique et existentiel. Au sens matériel, il ne s'agit pas seulement de bénéficier d'une habitation, mais de reconnaître que tout individu a des besoins corporels qui doivent être comblés et que combler ses besoins de base est facilité par la demeure où dormir, cuisiner, se laver ont lieu. Au sens ontologique, être chez soi implique la reconnaissance que faire demeure dans un lieu concret s'effectue dans un milieu socio-historique plus large, qu'il y a donc un sens ontologique où l'appartenance est centrale. Bien qu'ils sont distincts, ces deux sens interagissent. Avoir un sentiment généralisé d'être chez soi au sens d'une appartenance et d'une familiarité dans un contexte donné est complexifié par un manque de stabilité matérielle ou par une situation d'habitation précaire. Inversement, avoir le sentiment que le monde nous est hostile rend le projet de faire chez soi dans un lieu physique bien plus ardu. Le sens matériel d'être logé et abrité est donc intriqué dans ce que nous pourrions appeler faire demeure ou appartenir. Analyser la demeure selon une approche relationnelle signifie qu'il faut replacer la demeure dans le contexte plus large des différentes relations qui la constituent. La théorie féministe relationnelle, de manière générale, peut être contrastée avec les conceptions occidentales et libérales du sujet humain individuel comme unité d'analyse principale. Le statut ontologique de l'être humain est redéfini comme étant principalement relationnel, c'est-à-dire que les perspectives relationnelles vont voir l'individu comme étant né au sein de relations formées par elles, agissant à travers elles et dépendant de ces relations pour se développer en tant qu'individu. Si la demeure peut être à la fois un espace de domination genrée ou de renforcement de la solidarité d'une communauté, le domestique peut donc être qualifié de précaire en son sens relationnel. Qu'est-ce que cette porosité normative? Comment un espace peut-il être qualifié de précaire? Les théories féministes relationnelles et les éthiques du care tracent une distinction entre les concepts de vulnérabilité et de précarité. Les deux sont des dimensions de base de la condition humaine et se trouvent souvent confondues pour un seul phénomène. La vulnérabilité serait définie comme une forme de réceptivité, une ouverture à l'autre, incluant... Il y a des débats sur le sujet, mais dernièrement, il y a eu plus de contributions qui reconnaissaient que c'est une ouverture aux expériences tant positives que négatives. Or, la précarité, par contraste, indique un équilibre instable. Bien que souvent utilisée comme ayant une connotation négative, la précarité ne désigne qu'une dimension universelle de l'expérience humaine. Une distinction supplémentaire peut être faite, telle qu'on la retrouve dans les travaux de Judith Butler, entre « precariousness » et « precarity », une distinction que je crois qu'on perd en français, bien que je ne sais pas exactement comment c'est traduit dans la traduction française de « precarious lives », mais on pourrait traduire les deux par « précarité » en français. « Precarity » désignerait, en somme, pour Butler, la distribution inégale de l'expérience humaine de « precariousness », qui est son niveau plus fondamental, ontologique. Cet état « precarity » est induit par des conditions politiques où certaines populations souffrent davantage de l'échec des réseaux de support sociaux et économiques que d'autres. Cette expérience engendre un sentiment accru et inégalement distribué de pouvoir être remplacé ou substitué, ce qui doit être accompagné d'une compréhension de la précarité comme engendrant des changements dans la réalité psychique et psychologique d'un sujet. On peut donc voir que la précarité, telle que définie par Butler, pense cette action simultanée des deux plans matériels et ontologiques. La précarité dans ces deux significations de dimension universelle de la condition humaine et le phénomène de distribution inégale au plan social est donc un concept relationnel. Il s'ensuit de dire de la demeure qu'elle est précaire, mais en exergue, en premier, qu'il s'agit d'un espace traversé et informé par les normes sociales et les relations structurelles, et non d'un espace séparé du politique. En second lieu, qu'une telle porosité le rend normativement ambivalent. En troisième lieu, qu'il y a un rôle politique et existentiel à l'activité de faire demeure. Et finalement, qu'il représente un support matériel et ontologique à la constitution de soi. Comme le disait Noddings, en étant privé du lien à un lieu et à ses habitants, nous risquons de souffrir d'une nostalgie chronique ou mal du pays chronique, chronic homesickness, qui ressemble à une blessure mortelle, une blessure qui prend la forme d'une privation relationnelle. Pour finir, j'aurais quelques pistes de réflexion qui sont encore à un stade un peu plus brouillon, mais que j'aimerais poursuivre et développer davantage dans le futur. J'aimerais développer à quoi ressemblerait une approche relationnelle de l'être chez soi, ontologique et matériel. Dans le premier cas, être chez soi au sens ontologique, c'est-à-dire au sens d'habiter le monde, signifie que la demeure est un support pour une identité individuelle ou collective. Cette identité repose à la fois sur une relation de signification entretenue avec des objets, des lieux et entrée en relation avec autrui. Les approches relationnelles à un être chez soi ontologique peuvent être retrouvées chez Maria Lugones avec le concept de world traveling, chez Mariana Ortega avec le soi multiple, chez Martin Heidegger même, et chez Sarah Ahmed. Chez Sarah Ahmed et dans le développement que fait Amy Harbin de désorientation, la désorientation montre comment l'expérience de perdre un sentiment de familiarité et une orientation habituelle de ne plus se trouver chez soi dans le monde, peut mener à un changement moral positif via l'expérience de la vulnérabilité et de la précarité. Dans le second cas, une approche relationnelle à la demeure devrait s'intéresser à ce qui est pris pour acquis dans la sphère sociopolitique eu égard aux droits de propriété. Si l'on accepte que la précarité liée au logement est un obstacle majeur pour l'épanouissement d'un individu, alors les politiques publiques devraient supporter ce besoin de base. Christine M. Coggle développe une approche relationnelle à l'égalité en prenant entre autres pour cas empirique les politiques publiques liées à l'itinérance et argumente que des politiques plus appropriées devraient tenir compte du fait que de nombreux droits civiques sont pris pour acquis par ce même droit de propriété, le droit de vote, l'assurance maladie, la participation aux recensements fédéraux, mais aussi satisfaire des besoins de base liés à la dignité humaine, comme aller aux toilettes, se laver, se nourrir et dormir. Baser une politique d'accès au logement sur la reconnaissance de besoins de base et que ces besoins doivent être comblés est donc guidé par les éthiques du care. En somme, plutôt que de constituer une contradiction ou de forclore la possibilité d'investir la demeure comme thème philosophique féministe, l'ambivalence sur laquelle j'ai insisté en début de présentation montre que la demeure comme lieu physique et l'activité de faire demeure sont des éléments relationnels qui sont sujets à une certaine instabilité. L'espace domestique est un lieu précaire, tout comme l'activité caractéristique de faire demeure, et sa valeur normative ne peut être comprise que dans un schéma relationnel. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne, pour cette communication très intéressante et une maîtrise du temps absolument parfaite. Nous allons donc maintenant écouter Elena Mascarenhas. Donc, Elena, tu es en doctorat de droit au Centre de recherche critique sur le droit à l'Université Lumière Lyon 2. Ta thèse interroge l'influence du langage juridique sur le développement de stéréotypes de genre en droit français, en particulier en matière d'état civil et de droit de la famille. Et pour cerner les liens entre le genre dans le langage juridique et les droits des minorités de genre, tu portes ton attention sur les contentieux impliquant des personnes transgenres et tu adoptes un regard comparatiste pour examiner la notion d'écriture inclusive qui émerge en droit francophone. Donc, je te cède la parole pour une communication intitulée « La philosophie féministe francophone au défi de la transidentité et de la non-binarité ». Repenser l'antagonisme, Wittig Butler.
Donc avant toute chose, je remercie les organisateurs de ce colloque vraiment important tant pour le féminisme et le mouvement queer. On a pu observer, évidemment, le développement d'identités transgenres, d'identités non-binaires, mais aussi une montée parfois de leur reconnaissance. La reconnaissance de la transidentité a appelé sa théorisation et sa prise en compte dans les théories actuelles. Et il est quand même assez frappant de voir que c'est surtout la philosophie américaine, comme on en a déjà discuté hier avec Judith Butler, qui a permis cette compréhension, ou en tout cas qui a été très utilisée. Pourtant, la philosophie francophone avait déjà des sources féministes avec un questionnement sur les catégories de genre. Et on peut notamment penser à la philosophie féministe matérialiste, qui est même parfois aujourd'hui enseignée dans nos universités grâce à certaines maîtresses de conférences comme Marie Garraud. Et on peut se demander pourquoi cet attrait pour l'autre, pourquoi un attrait pour la philosophie de Butler. Alors on peut avoir différentes explications, bien sûr. Je ne prétends pas donner une explication, mais montrer des pistes aujourd'hui. D'abord, on a peut-être une explication historique, bien sûr, avec un aspect contingent. On avait une philosophie matérialiste en retrait, Butler qui était en montée, l'influence du soft power américain. Et on pouvait aussi se dire que peut-être que la théorie de la performativité avait un meilleur rendu pour rendre compte des identités transgenres. On peut quand même se demander s'il n'y a pas eu aussi la peur d'un risque. Quel risque a pu effrayer la philosophie féministe francophone? C'est que questionner les limites des théories francophones pour prendre en considération les identités transgenres féminines et masculines aurait été un risque au plan théorique, tandis que la théorisation de la non-binarité aurait risqué le déplacement et l'oubli du sujet d'analyse traditionnel sur lequel la philosophie française mettait l'accent, la catégorie femme. Alors, on pense à protéger les femmes, mais on fait fi des évolutions identitaires qui, dans le meilleur des cas, sont peut-être tolérées. Et charge à la philosophie de Butler de penser les femmes transgenres quant à la non-binarité. Alors, la transidentité et la non-binarité, simple oubli ou non-dit de la philosophie française. Mais aujourd'hui, l'urgence n'est pas à cette question, l'urgence est autre. On a aujourd'hui une véritable... On observe des oppositions, des accusations de trahison du féminisme, de s'insérer pour le défaire de l'intérieur, parfois avec une visée particulièrement des personnes transgenres. On a aussi avec l'avortement la question de savoir est-ce qu'il faut utiliser un mot féminin ou un mot épicène. Et on a aussi la question de l'état civil. Est-ce qu'on abolit? Est-ce qu'il faut maintenir pour protéger? Il y a toutes ces questions. Comme s'il avait fallu choisir entre sauver les transgenres binaires ou les transgenres non-binaires, performer la femme ou sortir du genre. Alors, la non-binarité semblant être un projet trop ambitieux et mal reconnu, il est bien plus facile d'en rester à la performativité de la femme et de l'homme. Et ce qui est en tension aujourd'hui et qu'il faut travailler, c'est que on voit une opposition entre déformer le genre ou l'éradiquer. On a une opposition entre le concept de performativité chez Butler face à celui de renversement chez Wittig. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de vous dire que les théories sont identiques, bien sûr que non. Il s'agit par contre de penser comment on peut ne pas autant les opposer. Et je vous propose d'examiner d'abord le potentiel de cette la rencontre en fait d'abord entre deux oublis de la philosophie féministe, Wittig et la non-binarité. Qu'est-ce que ça peut apporter? En quoi il y a eu un conflit? En quoi il y a un conflit pour rendre compte à la fois de la performativité et du renversement, ce qui en fait est un obstacle pour comprendre la transidentité en tant que homme ou femme, ou bien la transidentité comme non-binaire hors du genre. Et on verra après si on peut voir des pistes pour une négociation entre ces approches. Alors, Butler permet certes de comprendre les identités, mais en particulier certaines, c'est ce que j'essaye un peu de dessiner, celles qui restent dans un rapport au genre. Ça, c'est propre à sa théorie. On n'est pas dans n'importe quelle transidentité, dans le sens où on s'inscrit dans la catégorie femme, on s'inscrit dans la catégorie homme, pour la défaire de l'intérieur, pour la modifier. On va avoir quelque part comme une sorte de dérivation de la catégorie. On la reproduit à chaque fois d'une façon différente. Et donc, la femme va évidemment pouvoir se libérer en partie de ce qui l'a contraignée à un moment donné. En revanche, elle reste on est toujours dans l'aspect genré parce que l'émancipation ne se pense quelque part que comme en s'inscrivant dans la catégorie pour la remodifier. En revanche, pour comprendre la non-binarité en tant qu'identité à genre, là je parle, il y a évidemment des personnes qui vont dire non-binarité en tant que, par exemple, à la fois une part féminine, une part masculine, là on est quand même encore dans un travail du genre, mais il y a aussi des identités qui naissent et qui se veulent hors du genre, non-binaire à genre, donc c'est pour ça que j'ai mis la précision à genre. Et dans ce cas-là, en fait, on va avoir un trou, c'est-à-dire on a un trou pour la compréhension de la non-binarité à genre. Et on est resté avec ça sur la philosophie américaine parce que peut-être on avait aussi un usage très accessible qui ne niait pas les femmes. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un objet du réel qui aurait oublié d'être théorisé? Comment on fait à partir de là? Et il faut voir que si la philosophie féministe francophone a accueilli le paradigme butlérien de la performativité, on peut le voir dans les travaux de Fabienne Brugère, de Guillaume Leblanc et d'autres encore, la philosophie française permettait en fait déjà de rendre compte d'identité trans. Elle avait déjà de quoi rendre compte grâce au renversement de Wittig de certains mouvements. Mais il y a un gros paradoxe qui s'est fait, c'est que cette philosophie de Wittig n'a pas été théorisée en France par les philosophes et a été délaissée aux autres disciplines. Donc, lisez la partie francophone de la programmation du colloque sur Monique Wittig il y a en début d'année. On va avoir toutes les disciplines qui se réunissent, sociologie, linguistique, informatique, art, design, cinéma, encore plein d'autres. Et elles se réunissent pourquoi? Pour penser, grâce à Wittig, le queer, la transidentité en tant que non-genré, le langage dégenré, le hors-le-genre. Il n'y a pas de philosophie. La philosophie, c'est l'excuse pour venir... c'est le point d'appui pour venir à cette non-binarité, mais personne ne vient en tant que philosophe. Et donc, dans la théorie de la non-binarité, c'est un manque que les autres disciplines ont tenté de résoudre avec nos propres outils. Dans ces disciplines, c'est le phénomène qui est appelé la théorie, et parfois, c'est également la nécessité épistémologique de trouver un espace non-genré qui a appelé la non-binarité. Quand on pense par exemple aux travaux qui essayent de montrer à l'heure actuelle que le genre, parler hors le genre peut être d'une utilité pour l'approche des sciences comme on peut le voir avec la solution I telle que proposée dans les travaux de Touraille. Et puisque c'est la philosophie américaine qui nous a ramené notre philosophie française, non sans peine, une question se pose. Cette Monique Wittig, mais qu'a-t-elle de si intéressant autant que de repoussant pour que toutes les disciplines s'y retrouvent sauf la nôtre? Alors, la réponse, c'est le renversement. Le renversement. Dans « On ne naît pas femme », Wittig ne parle pas de non-binarité, mais théorise davantage sur les lesbiennes. Les lesbiennes ne seraient pas des femmes, elles ne sont pas pour autant des hommes. Simplement, elles proposent un point de vue hors de l'ordre de genre et dont le langage, lui aussi non-genré, ou, à moindre coût, subversif, se fait lieu d'une communication plus libre et d'une agentivité. Finalement, l'émancipation ne peut se faire avec elle qu'avec l'abolition des catégories de sexe, faute de quoi les femmes continuent de lutter dans un étau binaire créé par le système dominant. Donc en rejetant Wittig, la philosophie francophone a par la même occasion rejeté la possibilité même d'une théorisation de la non-binarité, amenant donc à une double marginalité de la théorie et de l'identité, du renversement et de la non-binarité. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que même si la théorie de Wittig peut être intéressante pour la non-binarité, on a quand même un problème pour la confronter avec les travaux de Judith Butler. Je ne vous cache pas que... Alors, attendez, je cherche le... Ah oui, c'est sur ça. Il va s'agir de penser l'opposition. Qu'est-ce qui nous empêche de penser une articulation ? Donc, l'état des lieux de nos ressources philosophiques féministes actuelles pour penser les transidentités femmes, hommes et non-binaires sont vraiment marqués par l'approche de Butler, avec l'idée, donc, comme je vous avais montré, de la dérivation. Je vous ai remis le tableau de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe si on ajoute Wittig ? On a effectivement comme si on avait à la fois une complémentarité dans les objets pensés. En revanche, on a une opposition, en tout cas en apparence, dans la façon de penser cette construction des identités. Avec Butler, qui une construction qui se construit dans les catégories de genre, et avec Wittig, une construction qui se construit hors de la classe femme, avec une abolition même. Et on a même des fois l'impression qu'on a d'une part un usage accessible pour tout le monde et d'autre part un idéal inaccessible où on pense le non-genré mais qui serait peut-être une utopie. Et le problème, c'est surtout qu'on a une répartition des cadres théoriques qui se fait selon les identités et pas de compréhension générale. Est-ce qu'on n'a pas là le risque d'une brèche épistémologique ? Parce que ces écarts de fondement théorique empêchent d'adopter une approche systémique répondant à l'ensemble du réel. Ça crée une brèche qui cache d'un côté comme de l'autre les évolutions et enjeux de l'autre mouvement. Si on essaye de penser les personnes, de soutenir, d'expliquer l'identité d'une femme transgenre, par exemple, on va utiliser un argumentaire qui va souvent pas réussir à cause de la façon dont c'est amené à reproduire pour une personne non binaire. Et l'inverse est vrai aussi. Et la question n'est pas ne serait peut-être pas qui a raison, mais plutôt comment on dépasse cet antagonisme. Donc, défense de la transidentité ou de la non-binarité, il faut choisir. Ça, c'est ce qu'on a l'impression. Enfin, c'est ce dont on a l'impression, pardon. Et en fait, on voit qu'il y a un vrai enjeu de convergence des luttes. L'antagonisme Wittig-Butler ne peut-il pas être dépassé ? Alors, comment penser ensemble renversement et performativité ? Moi, je vous propose de voir ça comme une nécessité pour un féminisme inclusif. Et alors, on va s'arrêter un instant, parce que féminisme inclusif, est-ce que ce n'est pas un pléonasme ? Aujourd'hui, je vous précise tout de suite, il ne s'agit pas d'inventer un nouveau mouvement, il s'agit surtout de dégager un courant, il ne s'agit pas de dégager un courant, il s'agit surtout de penser comment le féminisme peut se poursuivre en augmentant son degré d'inclusivité et en prenant compte de toutes des identités minorisées actuellement par l'ordre de genre, sans préjuger de leur légitimité avant même d'avoir pu en rendre compte. Il s'agit d'avoir une posture quelque part presque phénoménologique et de pouvoir commencer à articuler resignification et renversement, d'autant plus que si l'on étudie les stratégies émancipatrices, c'est avant tout parce qu'en fait, on a des personnes qui les mettent en œuvre et qu'on ne peut pas en faire fi. On est obligé de se demander comment c'est possible qu'on ait deux tensions à chaque fois. Et ce qu'on va voir là tout de suite, c'est qu'on réoppose encore une fois dans le tableau Wittig et Butler. Et on voit bien que d'une part, on va renverser le genre avec Butler, avec Wittig, et d'autre part, on va performer le genre avec Butler. Et pour prendre des exemples concrets, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si on regarde la mention du sexe à l'état civil, on a d'une part une demande qu'on pourrait associer à la demande de renversement de l'état civil, au sens où on ne veut plus la mention de sexe à l'état civil pour une partie de la doctrine juridique, pour une partie, par exemple, du collectif intersexe, pour une partie des personnes non-binaires. Et en même temps, on va avoir une demande d'un troisième sexe à l'état civil ou de performer ce genre. Est-ce qu'on peut être une femme sans regarder les appareils génitaux ? Et il y a souvent une opposition dans ces luttes, une opposition qui est même en défaveur des mouvements, parce que c'est utilisé à l'encontre des mouvements féministes pour dire, regardez, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et en fait, ce serait peut-être intéressant de voir que ce n'est pas toujours une opposition entière, dans le sens où il y a une demande qui va défaire la rigidité du sexe à l'état civil. Quand vous allez essayer de performer le sexe à l'état civil en disant « Bonjour, je me présente, je suis une femme, mais je n'ai pas opéré mes parties génitales », ça, il y a une évolution jurisprudentielle que j'étudie, moi, pour le coup. Là, on est vraiment dans le fait de mettre de créer le trouble, en fait, dans la mention de sexe à l'état civil. Mais en créant le trouble, on interroge aussi en même temps l'utilité de cette mention de sexe. Et du coup, c'est là qu'on peut voir que ça questionne la pertinence même de la catégorie qui, elle, amène à penser un renversement chez Wittig. Donc, de ce fait-là, on a une sorte de complémentarité qui amène l'une à l'autre. Et de la même manière, dans la question du langage inclusif, je pense qu'on a énormément de tentatives qu'on peut observer pour décrédibiliser ces luttes. Et pourtant, il y en a une qui est particulièrement mise en avant, c'est est-ce qu'on dégenre ou est-ce qu'on va multiplier femmes, hommes à chaque fois? Est-ce qu'on va dire citoyens, citoyennes ou bien les personnes citoyennes? Moi, je me suis amusée à réécrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en différentes tournures inclusives. Et en fait, je pense que, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut l'un ou l'autre. L'objectif, peut-être, en regardant Wittig et Butler, c'est que c'est compatible, dans le sens où on peut, à certains moments, poser de l'épicène qui serait, en théorie, non-genré, en tout cas à première vue, pour montrer qu'on est dans une approche non-discriminante. Donc, ça pose un objectif non-discriminant, tout en mentionnant à certains endroits, dès qu'on le souhaite, c'est-à-dire, par exemple, pour la parité ou pour d'autres objets, le point médian, ou bien la parité linguistique avec, par exemple, les citoyens et les citoyennes. Et l'idée, c'est que l'articulation des deux évite leur gender blind, tout en évitant les discriminations. En tout cas, ça, c'est l'objectif, et c'est quelque chose qui se travaille en coopération et pas en opposition. Donc, pour moi, il y a un potentiel d'engagement où on pense parfois que c'est trop politique d'être dans la posture de Wittig et pas réel, alors que Butler, quand on est plus dans l'identité propre. Et finalement, l'identité propre met en branle un système politique qui, lui, va amener à, du coup, repenser tout le système en lui-même. Je vais essayer d'aller vite. Donc, tout ça nous amène à penser une complémentarité pratique qui peut-être nous invite aujourd'hui à penser est-ce qu'il est possible d'avoir une complémentarité théorique. Alors, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, une complémentarité pourrait, je pense, se penser du point de vue de l'émancipation. Est-ce qu'avec Butler, on n'aurait pas la possibilité de performer l'identité non-genrée, c'est-à-dire, on pense le renversement non comme s'inscrire dans femme ou homme, mais comme je performe l'identité dans une dimension où je ne mets pas le critère de genre. Est-ce qu'avec Wittig, on n'aurait pas l'idée que, même elle qui... Enfin, c'est quand même... une personne qui va utiliser beaucoup des tournures féminin génériques ou d'autres choses. Et on voit qu'il y a l'idée qu'on va mettre en tension dans le texte des incohérences pour faire réfléchir à l'utilité. Donc, elle concède également que le fait de troubler l'ordre permet ensuite d'amener son renversement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la convergence se pense sur tous les plans. Alors, l'essentialisme stratégique, oui, pour s'insérer dans la catégorie femme et la subvertir, non pour se servir de cette catégorie comme blâme des femmes transgenres et personnes non-binaires. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Elena. on va donc continuer cette session avec une présentation de Héloïse Imbert. Donc, Héloïse, tu es doctorante en philosophie depuis 2020 à l'Université de Picardie-Julien Verne. Et ta thèse donc, analyse les pratiques d'attention à soi et aux autres au prisme du genre dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc, je te laisse la parole pour une communication intitulée « La situation féminine comme objet et perspective philosophique dans le deuxième sexe ».
Donc, merci beaucoup aux organisatrices pour avoir organisé cet événement. Je suis très contente de pouvoir présenter mon travail ici. Donc, à l'occasion de cette intervention, j'ai choisi de revenir sur un extrait qui est situé en introduction du premier tome du deuxième sexe, dans lequel Simone de Beauvoir présente la méthodologie qui lui permet de traiter le sujet de l'oppression des femmes par les hommes d'un point de vue philosophique. Dans cet ouvrage, Beauvoir prend pour objet d'étude la manière dont l'assignation à la féminité informe les expériences vécues des femmes, en revendiquant l'apport de sa propre position sociale en tant que femme sur les connaissances qu'elle est à même de produire. Donc, le travail que je présente aujourd'hui a pour objectif de revenir sur les apports de la démarche beauvoirienne à la pratique de la philosophie féministe contemporaine et sur la manière dont ce texte s'inscrit dans la lignée des théories féministes du point de vue qui ont été élaborées au cours des 73 années qui ont suivi la publication de ce texte. En m'appuyant sur ces théories, cette intervention est également pour moi l'occasion de comprendre, d'une part, comment l'explicitation à laquelle procède Beauvoir de sa propre position sociale a pu invisibiliser d'autres perspectives féminines, et d'autre part, comment la justification de son positionnement théorique a pu masquer les biais androcentrés de la perspective existentialiste qu'elle mobilise. Et à mon avis, la distinction entre ces deux positions, donc sociale et théorique, permet de comprendre comment Beauvoir pense à la fois la question de l'oppression des femmes en tant que femme et en tant qu'existentialiste, supposément un point de vue plutôt masculin. Cette distinction permet de comprendre les incohérences qui émergent et qui résultent de ce double positionnement. Dans ce passage, Beauvoir interroge sa légitimité à étudier en tant que femme les situations féminines, ainsi que les conditions qui lui permettent de poser un regard, dit objectif, sur celle-ci. Je cite « Les hommes sont juges et parties, les femmes aussi, ou trouver un ange. » Fin de citation. Parce que elles et ils sont à la fois actrices et affectées par cet objet d'étude, leurs intérêts respectifs influencent leur manière de le définir, ainsi que de répondre aux problématiques posées. Pour autant, Beauvoir élimine rapidement le fantasme d'une perspective désincarnée et neutre sur le sujet, perspective qu'elle prête à un ange. En effet, selon elle, un ange, parce qu'il n'est pas situé, et en particulier parce qu'il n'est pas sexué, serait mal qualifié pour parler, il ignorerait toutes les données du problème. L'implication des hommes et des femmes dans la domination masculine est ainsi perçue comme le vecteur d'une connaissance spécifique sur la question. Leur partialité est investie comme une opportunité d'en produire une connaissance véritable. C'est parce que les femmes et les hommes font l'expérience de l'inégalité entre les sexes qu'elles et ils sont à même de la saisir comme un objet de recherche. On pourrait aujourd'hui lier ce constat à la façon dont Donna Haraway décrit la perspective de nulle part comme une illusion contre-productive. Pour autant, cette partialité reste perçue par Beauvoir comme un obstacle à la recherche de vérité. Bien que selon elle, la neutralité d'un être désincarné ne soit ni envisageable ni souhaitable, elle distingue dans ce passage des degrés d'impartialité qu'elle juge plus ou moins favorables à ce qu'elle désigne comme la recherche de la vérité. Beauvoir suggère ainsi que certaines femmes en particulier seraient mieux disposées que d'autres à cette activité. En raison d'une situation privilégiée, ces dernières parmi lesquelles elles se comptent pourraient en effet s'offrir le luxe de l'impartialité. C'est une citation. Le luxe de l'impartialité. L'objectivité de ces femmes résulterait de leur implication moindre dans la question de l'inégalité entre les sexes. En effet, elles sont présentées comme les héritières de luttes féministes achevées, en conséquence traitées comme les égales des hommes, et elles lui semblent donc capables d'un plus grand détachement que d'autres, qui seraient plus directement affectées par ces inégalités. Je précise donc que en fait, Beauvoir n'était pas féministe avant de travailler au deuxième sexe et qu'elle est devenue féministe plus tard dans son parcours. La question des critères ou des dispositifs à mettre en place pour garantir des formes d'objectivité philosophique, a fortiori quand l'objet choisi est une expérience vécue, continue à ce jour de se poser. Cette considération permet notamment de distinguer le geste philosophique parmi d'autres méthodes de production de connaissances. En revanche, la manière dont procède Beauvoir pour l'aborder me semble problématique, dans la mesure où elle remarque la disposition privilégiée de certaines femmes à l'activité philosophique comme un simple donné, et sans la questionner. Elle n'envisage pas dans ce passage l'élaboration de dispositifs permettant d'élargir l'accès à cette activité à d'autres femmes, ni d'ajuster l'activité philosophique elle-même afin de rendre audible une plus grande diversité de voix. Par ailleurs, la réalité de ce privilège est questionnable. Bien entendu, il était plus facile pour Beauvoir que pour d'autres femmes, du fait de son éducation, de manier des outils théoriques, de développer une réflexivité sur sa propre situation et de l'exprimer de manière audible au sein de la communauté philosophique. Quoique la réception du deuxième sexe comme texte philosophique n'aille parfois toujours pas de soi. Cependant, ce privilège lui-même a pu constituer une source de biais épistémique particulier que Beauvoir ne semble pas avoir anticipé. Nous reviendrons dessus en conclusion de l'intervention. Pour Beauvoir, si certaines femmes sont mieux placées pour étudier les situations féminines que d'autres femmes, elles le sont également vis-à-vis de leurs homologues masculins. Bien qu'elles soient privilégiées dans certains contextes, ces femmes restent traitées en tant que femmes dans d'autres et ont l'expérience d'une éducation à la féminité. Je cite « Nous y avons nos racines ». Du fait de cette expérience, les femmes comprendraient plus significativement ce que signifie pour un être humain le fait d'être féminin. En plus d'une meilleure connaissance de leur situation objective quotidienne, matérielle et historique, les femmes auraient accès à une connaissance phénoménologique de l'impact de cette situation sur leur subjectivité et leur manière de rendre leurs expériences signifiantes. Enfin, leur rapport existentiel à cet objet de connaissance les rendrait tout simplement plus susceptibles de s'y intéresser et de souhaiter le comprendre et de résoudre les problèmes qu'ils posent au quotidien. Je cite « Nous nous soucions davantage de le savoir ». Si Beauvoir présentait dans un premier temps la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les affects qu'elle suscite comme un frein à la recherche de la vérité, elle revient quelques lignes plus tard sur cette idée. Elle note en effet que l'intérêt des femmes pour l'étude de leurs propres conditions provient notamment de leur volonté d'agir sur leur situation et d'augmenter les chances offertes aux femmes des générations suivantes. Je cite « En quoi le fait d'être femme aura-t-il affecté notre vie ? Quelles chances exactement nous ont été données et lesquelles refusées ? Quel sort peuvent attendre nos sœurs plus jeunes et dans quel sens faut-il les orienter ?» En admettant que les femmes mentionnées par Beauvoir aient un accès privilégié à la production de connaissances philosophiques depuis leur propre expérience, il faudrait alors souligner qu'elles restent, au même titre que les hommes, moins bien placées pour connaître les vécus de femmes moins privilégiées ou dont l'expérience diffère simplement de la leur, du fait de paramètres tels que la racialisation, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou encore le handicap. J'en viens maintenant à l'explication de la manière dont Beauvoir explicite sa position intellectuelle. Donc, après avoir explicité son positionnement social, c'est-à-dire le fait qu'elle étudie les situations féminines en tant que femme, Beauvoir en vient à la présentation de son positionnement intellectuel et éthique, philosophique. Elle écrit, je cite, « Ce livre est une tentative parmi d'autres pour faire le point, mais sans doute est-il impossible de traiter aucun problème humain sans parti pris. La manière même de poser les questions, les perspectives adoptées, suppose des hiérarchies d'intérêts. Toute qualité enveloppe des valeurs, il n'est pas une description soi-disant objective qui ne s'enlève pas sur un arrière-plan éthique. Cette mention spécifique des hiérarchies d'intérêts qui informent nos perspectives, y compris philosophiques, pourrait sembler commune aux deux positionnements qu'elle explicite dans ce passage, à savoir social et intellectuel. Nous l'avons vu, l'implication des sujets dans l'oppression des femmes par les hommes détermine leur intérêt à étudier le sujet et oriente leur manière de le percevoir, c'est-à-dire leur perspective. Pourtant, ces deux positionnements sont ici présentés comme deux points méthodologiques relativement distincts. Si Beauvoir procède bel et bien à la critique des biais attribués au genre des auteurs de certaines perspectives théoriques, la perspective existentialiste dont elle se réclame échappe cependant à cet examen. La perspective ou l'arrière-plan éthique tel que Beauvoir l'entend ici correspond à l'ensemble des systèmes de valorisation philosophique dans lesquels sa pensée s'inscrit, depuis lesquels elle pense et dont elle tire les concepts qu'elle mobilise. L'explicitation de ce positionnement intellectuel a d'abord une visée pratique. Il permet, selon elle, de clarifier son usage de certains concepts, en particulier normatifs, dans la mesure où leur définition dépend des systèmes de pensée auxquels ils appartiennent. Je cite « Au lieu de chercher à dissimuler les principes que plus ou moins explicitement on sous-entend, mieux vaut d'abord les poser. » Ainsi, on ne se retrouve pas obligé de préciser à chaque page quel sens on donne aux mots. Fin de citation. Pour montrer en quoi ces perspectives philosophiques charrient des valeurs qui traduisent un intérêt subjectif dans la manière de poser les problèmes et de les résoudre, elle donne l'exemple de deux points de vue qui s'opposent selon elle dans la littérature philosophique portant sur les femmes. Celui de l'intérêt général et celui de l'intérêt privé. Je prends le temps de revenir sur cet enjeu dans cette intervention portant sur le positionnement en philosophie parce qu'il me semble révélateur de plusieurs problèmes que pose l'adoption de la perspective existentialiste telle qu'elle est justifiée dans cet extrait. Beauvoir disqualifie d'emblée le point de vue de l'intérêt général au motif qu'il reflèterait en réalité l'intérêt de la personne prétendant vouloir le préserver. Je cite « Chacun entend par là l'intérêt de la société tel qu'il souhaite la maintenir ou l'établir ». Elle lui préfère le point de vue de l'intérêt privé de chacune et chacun des citoyens qu'elle mesure à l'aune des chances concrètes données aux individus. Je ne reviendrai pas dans cette présentation sur la pertinence et les implications de l'adoption d'une perspective individuelle et non collective qui devra faire l'objet d'un autre travail. Beauvoir distingue par la suite deux manières de concevoir ce bien privé. D'une part, la perspective du bonheur et d'autre part, la perspective de la liberté. Beauvoir juge alors que le terme de bonheur trop vague, imprécis, est trop vague et imprécis, et remarque qu'il est, je cite, « toujours plus facile de déclarer heureuse la situation qu'on veut lui imposer. Ceux qu'on condamne à la stagnation en particulier, on les déclare heureux sous prétexte que le bonheur est immobilité. » Fin de citation. Le concept de bonheur, tel que mobilisé par certaines traditions philosophiques au sujet de la condition des femmes, lui semble être le plus souvent instrumentalisé pour servir des intérêts masculins et maintenir les femmes en situation d'oppression. C'est la raison pour laquelle elle lui semble inadaptée pour penser la résolution de la domination masculine et choisit de ne pas s'y référer. À cette perspective qui évalue le bien fondé d'une action au principe, ou d'un principe à l'aune du bonheur qu'il peut apporter aux individus, Beauvoir préfère une perspective mesurant la valeur d'une situation à partir du degré de liberté individuelle qu'elle rend possible. Il s'agit ici de la perspective existentialiste. Selon Beauvoir, la perspective existentialiste définit la liberté comme la capacité du sujet à se transcender, c'est-à-dire à assurer son perpétuel dépassement vers d'autres libertés à travers la poursuite active de projets. Et je précise ici également à se distinguer de son état de naturalité pour faire de soi un existant. L'adoption de cette perspective existentialiste est essentielle à la compréhension du deuxième sexe puisqu'elle conditionne la manière dont le problème de la situation féminine est posé. En effet, la critique beauvoirienne porte essentiellement sur le fait que les femmes soient conditionnées et assignées à l'immanence, ce qui rendrait, selon elle, impossible pour elles une expérience authentique de la liberté. J'en viens à ma critique des limites que j'ai identifiées par rapport à cette méthodologie. Si les perspectives du bonheur sont suspectées par Beauvoir de charrier des valorisations masculines et des intérêts sexistes, et ce, à raison, bien que l'abandon a priori de la notion de bonheur plutôt que son investissement depuis une perspective féministe me semble regrettable, la perspective existentialiste échappe pour sa part à cet examen critique. Cette perspective est ici présentée comme orientée uniquement par son intérêt à garantir l'égalité des chances individuelles. Ce défaut critique me semble d'autant plus important à interroger que par ailleurs, Beauvoir dénonce très clairement la nocivité de l'hégémonie des perspectives masculines ordinaires sur les processus de subjectivation féminine. J'emploie ici le terme ordinaire par opposition à des perspectives scientifiques tributaires justement de méthodes d'objectivation. Un autre point qui participe selon moi de ce... Enfin, le premier point qui participe selon moi de ce déni des biais androcentrés internes à la perspective existentialiste est la façon dont Beauvoir explique procéder à l'explicitation de cette perspective philosophique afin de s'épargner de préciser à chaque page quel sens on donne aux mots. Bien que la définition initiale du système philosophique au sein duquel on pense doit... Pardon. Bien que la définition initiale du système philosophique au sein duquel on pense les concepts qu'on mobilise soit nécessaire, il importe encore par la suite d'évaluer la pertinence de ces concepts à mesure qu'ils sont utilisés, en particulier pour décrire des objets d'étude pour lesquels ils n'ont pas été construits. Cet ensemble de concepts ne risque-t-il pas de manquer et de masquer la valeur d'une partie de l'expérience vécue prise pour objet ? Je pense ici en particulier à la façon dont la perspective existentialiste dévalue le travail de reproduction et d'entretien majoritairement féminin qui vise à préserver le vivant. Précisément, l'application de la perspective existentialiste aux situations féminines me semble révélatrice des limites de l'opposition binaire et manichéenne entre transcendance et immanence qui la structure. Elle permet de montrer en quoi il s'agit en réalité de deux aspects non exclusifs et également valorisables de l'expérience humaine. Bien que la critique spécifique de l'assignation unilatérale des femmes à l'immanence au service des intérêts masculins soit encore nécessaire. C'est d'ailleurs ce que montre Beauvoir à de nombreux moments du texte, sans pour autant que cet apport n'ait de conséquences explicites sur sa manière d'investir la pensée existentialiste. J'ai un peu de temps encore. Ok. Notamment, hier, Pamina Guyot-Siones donnait l'exemple de son incompréhension face à la manière dont Beauvoir juge comme des manifestations de la mauvaise foi les pratiques d'automutilation des femmes en réaction aux violences qu'elles subissent. Donc on peut se demander comment elle parvient à cette conclusion. Et en fait, elle parvient à cette conclusion en plaquant la logique existentialiste sur l'objet qu'elle étudie, c'est-à-dire la situation féminine et l'expérience de la violence par les femmes. En effet, c'est parce que la perspective existentialiste identifie l'ensemble des pratiques d'identification à l'immanence, donc au corps, comme des manifestations de mauvaise foi, que Beauvoir, qui perçoit ces pratiques d'automutilation comme une identification des femmes à leur corps et une reconnaissance de leur caractère incarné, lui pose problème. Elle lui semble, de manière logique, être des manifestations de cette mauvaise foi. Donc, il importe d'évaluer l'appareil théorique mobilisé à l'aune de l'objet étudié afin de s'assurer que cet ancrage dans une tradition philosophique ne se fasse pas au détriment de l'observation des phénomènes, ni de l'élaboration ou de la mobilisation de concepts plus pertinents. Si dans cet extrait, Beauvoir clarifie le système de valeurs sous-jacent au deuxième sexe, la justification de certains de ses positionnements sociaux et intellectuels a également pour effet de masquer la pertinence philosophique de perspectives féminines plus marginalisées, ainsi que les biais androcentrés de la perspective existentialiste qu'elle mobilise. L'impact de la représentation qu'elle se fait de son propre privilège et de sa capacité à faire preuve d'objectivité sur son adhésion à la perspective existentialiste me semblerait d'autant plus intéressante à explorer que Beauvoir montre dans le tome 2 du deuxième sexe en quoi le privilège est précisément pour les femmes un facteur déterminant d'adhésion aux perspectives et aux valeurs établies par les hommes. Voilà. Et donc, concernant la poursuite de ce travail, je souhaiterais articuler à la lecture de ce passage méthodologique le reste de la critique beauvoirienne des perspectives masculines hégémoniques qu'elle décrit comme un frein pour l'élaboration de perspectives féminines émancipées. Merci beaucoup pour votre écoute.
Donc je passe maintenant la parole à notre dernière intervenante pour cette session. Donc Sophia Batko. Sophia, tu es doctorante contractuelle en études de genre et en philosophie à l'Université Paris 8 et au LEGS, donc le laboratoire d'études sur le genre et les sexualités. Ta thèse porte sur la réinvention de l'amour dans le féminisme français des années 70 à partir d'une lecture de l'enseignement de Lacan. Tes recherches se situent à l'intersection des études de genre, de la théorie féministe et de la psychanalyse. Et tu vas donc nous présenter une communication intitulée « Relever le défi de l'amour dans le féminisme, penser philosophiquement à la réinvention érotique » à partir de la littérature d'Hélène Cixous et de Monique Wittig.
Merci, merci Marie pour cette présentation. Merci aux organisatrices du congrès. Je suis vraiment ravie de vous parler ici aujourd'hui. Alors, comme l'a très bien dit Marie, je vais vous parler de la question de l'érotique et de la réinvention de l'érotique dans l'amour. Et je vais partir d'un petit, une petite amorce de Simone de Beauvoir, justement, donc ça tombe bien, ça fait la transition. Puisque dans un texte datant des années 1960, Simone de Beauvoir écrivait qu'il était temps de donner un nouveau visage à l'amour. Moins de 10 ans après, dans le contexte des mouvements de libération des femmes, deux écrivaines françaises relevaient le défi. Alors, malgré leurs différences théoriques et politiques, indéniables, Monique Wittig et Hélène Cixous ont cependant amorcé toutes les deux une réinvention de l'érotique et de l'échange amoureux en l'inscrivant à l'intérieur du projet féministe. Et le but de ma présentation est dès lors de caractériser d'abord donc, cette réinvention de l'érotique en essayant surtout de l'inscrire à l'intérieur du discours philosophique, c'est-à-dire de montrer en quoi réinventer l'amour en féministe implique un certain nombre de déplacements d'ordre philosophique. Alors, je dirais que l'apport de ces écrits, donc de Cixous et de Wittig, au débat philosophique peut se décliner sous trois aspects, que je vais ici séparer pour des raisons analytiques, mais qui en réalité sont intrinsèquement liées dans leurs pensées respectives. Alors, une première dimension est d'ordre épistémologique, puisque réinventer l'amour ou réinventer l'érotique dans une perspective féministe implique de questionner un certain nombre de partages de la pensée moderne occidentale, que nous dirons donc phallocentrique ou phallogocentrique. Une deuxième dimension est d'ordre éthique, puisque la question de l'amour est indissociable du problème de la relation à l'autre, entendu comme altérité et différence. Et finalement, une troisième dimension politique, puisque l'amour comme rapport, comme lien à l'autre, va nous inviter à repenser le problème du collectif. Alors, la présentation va se dérouler en trois moments. Un premier moment dans lequel je montrerai comment Wittig et Cixous réécrivent le corps érotique par-delà le genre. Et à partir de ce nouveau corps érotique, je caractériserai dans un deuxième temps le cadre érotique et ses conséquences éthiques sur la relation à l'autre. Et je terminerai par évoquer les conséquences sur la conception du collectif qui découle donc de ces deux premiers points. Alors, je commencerai donc par préciser que la question de l'amour dans les écrits de Cixous et de Wittig est indissociable d'une nouvelle manière d'écrire le corps érotique. Et ça me semble vraiment important de pointer ça. Donc, je souhaite montrer comment ces autrices réinventent un corps, donc par-delà le genre, c'est-à-dire par-delà un système qui distingue et hiérarchise entre le masculin et le féminin, sans pour autant que cela implique une désexualisation du corps. Au contraire, on va voir se dessiner un corps érotique, proprement érotique, mais qui déborde certaines des catégories de la pensée philosophique moderne. Donc, je vais essayer de déplier trois caractéristiques de ce corps érotique pour essayer de montrer ce que je vous propose comme thèse. Alors, la première, c'est que le corps érotique est un corps dont la géographie ne répond plus à une différenciation hiérarchique entre le haut et le bas, le centre et la périphérie. Par exemple, se servant de la métaphore du corps comme corps social et politique, Hélène Cixous envisage le corps comme non monarchisé, résistant, je la cite, à toute régionalisation au profit du couple tête-sexe. Dans le rire de la Méduse, le corps apparaît au contraire comme un tout illimité, formule oxymorique qui vise à souligner l'existence d'une unité corporelle, donc un tout, mais un tout qui ne nécessite pas de la production d'une limite entre dedans et dehors. Comme l'univers, le corps érotique est en expansion, c'est pourquoi la libido qui le constitue et l'anime sera dite cosmique. Le corps est ainsi envisagé comme une matérialité érogène dans son ensemble, une sorte de matière érogène, excitable. Cixous précise bien qu'il s'agit, je la cite, d'une multiplication des effets d'inscription du désir sur toutes les parties de mon corps et de l'autre corps. On voit dès lors se brouiller un premier partage, celui qui distingue le corps propre et le corps de l'autre, puisque la libido déborde les limites de ce qu'on appelle le corps propre pour s'inscrire sur le corps du partenaire ou de la partenaire. En tant que débordant, donc, le corps érotique va être aussi dit antispéculaire, dans la mesure où il va résister à la capture par le regard. Comme le souligne Namaskar Shaktini dans un écrit qu'elle consacre au corps lesbien de Monique Wittig, elle va dire, je la cite, « Le corps lesbien ne compose pas une image ». Et en effet, le corps lesbien n'est pas une construction imaginaire, mais plutôt une construction littéraire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque la construction littéraire, elle va vraiment trouver son matériau dans l'écriture. C'est un corps qui ne se voit pas, qui ne peut pas se représenter, mais qui se lit. Le regard fige le corps comme un objet, et en tant qu'il est au service de ce que, par exemple, Jean Laplanche a appelé une anatomie populaire, et que Hélène Cixous va appeler anatomie fantasmée, le regard enferme le corps-objet dans une bicatégorisation masculin-féminin. Et donc, échapper au regard, c'est aussi échapper à la fois à l'objectivation et à la bicatégorisation des corps. À cet égard, par exemple, il est intéressant de noter le statut de l'œil comme organe dans le corps lesbien, puisque dans le corps lesbien, l'œil joue un rôle important en tant qu'organe érotique, mais pas du tout comme on a l'habitude de le concevoir. C'est-à-dire que l'œil n'apparaît pas du tout comme une surface visuelle et visible, mais plutôt comme un trou noir d'ailleurs. Je vous renvoie par exemple aux pages 10 et 11 du corps lesbien, donc je n'ai pas le temps de lire, mais c'est au tout début du texte. Alors, cette idée de l'œil comme trou me permet donc de passer à la troisième caractéristique de ces corps érotiques, c'est que ce sont des corps érotiques troués, faits d'orifices, et en ce sens non hermétiques et ouverts. Alors, cette dimension trouée du corps vient défaire une autre distinction, celle qui distingue entre l'intérieur et l'extérieur. Comme le note Marta Serrara, le trou, qui fonctionne comme un lieu de passage entre dedans et dehors, tout en étant lui-même ni dedans ni dehors, permet justement une certaine circulation, une certaine entrée-sortie de fluide, notamment comme on le voit dans le corps lesbien, mais aussi dans Souffle, par exemple, de Cixous. Alors, ces fluides troublent donc d'abord la distinction dedans-dehors, mais aussi la distinction entre corps propre et corps de l'autre, comme je l'ai dit précédemment. Donc, je vous lis un passage du corps lesbien. Je vois mes pores se dilater, je vois tes pores le faire. Ouverts, ils sécrètent par milliers des cheveux fins. Je les sens tomber de tes bras sur mes bras. Je ne différencie pas les tiens des miens tant ils se mélangent au fur et à mesure de leur expansion. Fin de citation. Ici, vous voyez que la frontière qui sépare d'habitude le corps propre du corps étranger, donc la peau, devient une sorte de surface perméable, puisque les pores fonctionnent comme des ouvertures, et donc surface perméable qui va produire un certain effet de contamination entre ces corps. Donc, parmi l'ensemble des orifices du corps, donc il y en a beaucoup qui sont cités dans ces textes, je voudrais m'attarder sur un en particulier qui est celui de la bouche. Pourquoi ? Parce que l'oralité, et en particulier le fait de manger, va jouer un rôle très important dans la constitution d'un nouveau cadre érotique, à la fois chez Cixous et chez Wittig. Je passe donc au deuxième moment de mon développement, qui va consister à montrer comment le cadre érotique de l'oralité, et du manger en particulier, permet d'accueillir le problème de l'amour dans sa dimension éthique. En effet, l'oralité va devenir un cadre privilégié pour penser le rapport érotique à autrui. Dans Le brouillon pour un dictionnaire des amantes, un texte coécrit entre Wittig et Sandzeig et publié en 1976, Les autrices écrivent, je les cite, « On dit souvent de la vulve qu'elle est une bouche. Bouche et vulve sont les deux parties sensitives dans l'état d'amour. » Fin de citation. Wittig et Zeig énumèrent par ailleurs, donc dans le brouillon, un certain nombre de pratiques orales qui fonctionnent comme des pratiques amoureuses. Alors par exemple, si vous regardez l'entrée du dictionnaire alimentation, on y lit « Certaines amantes ont hérité des coutumes d'Amazon qui buvaient le sang de leurs juments et mangeaient leur chair crue. » Un peu plus loin dans le texte, on trouve la définition suivante. « L'expression cadavre exquise est née lorsque des amantes se sont mises à manger leurs amies mortes. Il semble que cette appellation soit due au vif sentiment de plaisir procuré par l'absorption des êtres chers. » Fin de citation. Chez Cixous, également, on va trouver une analogie entre « aimer et manger ». Dans « L'amour du loup et autres remords », elle va écrire « Dès que nous nous embrassons, nous salivons, l'un de nous veut manger, l'un de nous va être avalé par petites bouchées. » Fin de citation. Alors, ce rapprochement entre aimer et manger trouble donc deux partages épistémologiques sur lesquels je voudrais souligner. Alors, le premier, c'est celui qui distingue l'humain et l'animal, puisque le fait de manger l'autre va d'une certaine manière animaliser, ou en tout cas, il va y avoir un trouble de cette frontière. Et ce n'est pas anodin, par exemple, que Cixous appelle cet amour cannibale amour du loup. Et chez Wittig aussi, on va trouver un certain nombre de développements sur le lien entre manger et un certain devenir animal. Alors, je ne veux pas m'attarder sur cette première distinction, mais en revanche, je souhaiterais développer un peu plus un autre partage épistémologique qui est mis en question, troublé par l'analogie aimer-manger, qui est la distinction entre le sujet et l'objet d'amour. Puisque, en effet, le désir de manger apparaît comme indissociable du désir d'être mangé. Dans L'amour du loup, Cixous va écrire « L'amour, c'est quand tout d'un coup on se réveille cannibale ou bien promis à la dévoration », c'est-à-dire les deux marchent ensemble. Chez Wittig aussi, manger l'autre va toujours signifier quelque part aussi hein, se faire avaler par l'autre, c'est-à-dire ça va être vraiment les deux mouvements vont fonctionner ensemble. Je vous cite un passage du Corps lesbien. « Ma très délectable, je me mets à te manger. Ma langue s'introduit dans le pavillon. Elle touche l'antélix. Mes dents cherchent le lobe, elles commencent à le broyer. Ma langue s'immisce dans le conduit de ton oreille. Une fois absorbée la partie externe de ton oreille, je crève le tympan. Je trouve le marteau tout rond, roulant entre mes lèvres. Mes dents le concassent. Je creuse avec mes doigts. J'arrache un os. Je tombe sur le superbe limaçon os membrane tout enroulé. Je les dévore. Je fais une percée jusqu'au maxillaire. Je regarde l'intérieur de ta joue. Je te regarde au-dedans de toi. Je me perds, je suis égarée. Je suis empoisonnée par toi qui me nourris. Tu essayes vainement de me cracher. » Fin de citation. Alors, cet extrait consacre vraiment un glissement, puisqu'on voit que le sujet qui mange, donc celui qui parle au début et dit « ma très délectable, je me mets à te manger », devient à la fin, en fait, l'objet avalé, introjecté. L'extrait se termine sur un « tu essayes vainement de me cracher, je te regarde au-dedans de toi ». Et ce glissement, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas du tout une inversion des places, c'est-à-dire ce n'est pas un sujet qui devient objet, un objet qui devient sujet. C'est vraiment... Enfin, limite, pour moi, ça rend impossible. Enfin, ça fait disparaître justement ces opérateurs sujet-objet, et puisque ça les rend complètement inopérationnels. Cependant, on remarque donc un certain paradoxe dans l'acte de manger, puisque si l'appétit témoigne en effet de l'amour pour l'autre, on se demande aussi si manger l'autre n'est pas d'une certaine manière porter atteinte à son intégrité. Cixous le dira elle-même, je la cite. La personne que nous aimons, nous ne rêvons que de la manger, c'est dire le tranchant très fin de l'ambivalence. C'est alors que la question se pose de savoir comment manger l'autre. Et Cixous le rappelle, l'amour c'est quand on se réveille cannibale, elle dit, et après elle rajoute, et pas n'importe comment. C'est-à-dire que la question centrale est celle du comment, question qui nous place d'emblée face à un problème éthique. Et comme je le disais précédemment, Cixous va appeler amour du loup cette modalité de l'amour qui prend en charge la dimension, alors non seulement une éthique de la dévoration, mais surtout la dimension paradoxale non seulement la question d'une érotique de la dévoration, mais aussi la question d'une éthique de la dévoration, c'est-à-dire d'une manière éthique de manger l'autre, une manière de manger l'autre qui le préserve de la destruction, qui le garde en vie. La formule de l'amour du loup est la suivante, je cite Cixous, « Aimer, c'est vouloir et pouvoir manger l'autre et s'arrêter à la limite. » Fin de citation. Alors, l'amour du loup est donc une modalité de l'amour qui repose sur une érotique de l'oralité, vouloir et pouvoir manger l'autre, et aussi sur une dimension éthique liée à l'acte, donc s'arrêter à la limite. C'est la deuxième partie de cet énoncé. Ainsi, le véritable amour est un ne pas toucher, dira Cixous, c'est-à-dire un non-franchissement, et elle rajoutera, et pourtant un presque toucher. La dimension éthique de l'éros se situe précisément dans cette tension entre le désir et l'arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'érotique sans cette dimension éthique qui tient à l'acte de ne pas transgresser. C'est-à-dire si on se transgresse, ce n'est plus de l'érotique. Et en même temps, il n'y a pas d'érotique sans l'appétit, sans le vouloir manger. Et c'est toute l'ambivalence de la notion de limite. Il faut pouvoir s'y approcher pour décider donc de ne pas la franchir. L'amour du loup est donc un amour qui se situe du côté de la vie. C'est un amour qui laisse l'autre en vie. C'est important de souligner ça. Chez Monique Wittig aussi, l'amour va être placé du côté de la vie. Dans le brouillon pour un dictionnaire des amantes, aimer et vivre ont valeur de synonyme. Je cite le texte. Pour les amantes, vivre et aimer sont deux concepts absolument inséparables. Ce vivre est donc d'abord à entendre dans un sens biologique, c'est-à-dire en opposition avec la mort. Et c'est d'ailleurs que la raison pour laquelle il n'y a pas de mort dans la communauté des amantes. Si vous allez regarder la définition du verbe « mourir », donc les autrices ont complètement changé la définition. Mourir signifie avoir plaisir extrême. Donc, c'est-à-dire que même la mort est resignifiée pour être replacée du côté de l'héros. Il y a une continuité. Or, vivre dans l'analogie vivre-aimer doit être entendu aussi dans un sens politique, il me semble, donc au sens plutôt de vivre ensemble. En ce sens, aimer participe d'un acte collectif ou plutôt d'un acte qui fonde le collectif. Ainsi, le commun qui organise le groupe ne sera pas de l'ordre d'une identité, mais plutôt d'une disposition à l'amour, ce qui est quand même tout autre chose. Donc, je voudrais terminer en évoquant les implications politiques de la pensée de Wittig et de celle de Cixous autour de deux points. D'abord, la question du sujet érotique comme sujet politique et deuxièmement, la question du contrat social ou en tout cas de l'amour, de la disposition à l'amour comme fondement d'une restructuration du contrat social. Dans les écrits de Cixous et de Wittig, le sujet collectif, le sujet politique, s'étaye sur le sujet érotique puisqu'aimer devient l'acte qui fait lien entre les membres du groupe, l'acte à l'origine du « nous ». Or, se faire sujet d'amour implique, à la fois chez Cixous et Wittig, une forme de perte, une forme de désidentification. Dans L'amour du loup, Cixous va écrire « Il y a un lien entre l'amour et l'égarement. L'amour, nous l'éprouvons par la perte qui nous inflige. » Et Wittig, également, dans Le corps lesbien, écrit « Je regarde l'intérieur de ta joue, je te regarde dedans de toi, je me perds, je suis égaré. » Donc on a vraiment tout ce champ lexical de la perte, de l'égarement. Pour pouvoir aimer, donc, il faut pouvoir perdre quelque chose, y laisser quelque chose de soi. Et je vous renvoie notamment à l'entrée « Amour » du dictionnaire où Wittig et Zeig définissent l'amour par un ensemble de pratiques qui consistent à donner à l'autre, au partenaire ou à la partenaire, un bout de soi, une partie de son corps notamment parfois. Ainsi, l'acte d'aimer ressemble à une forme de désappropriation. Et en ce sens, le sujet collectif, qui va s'étayer sur les traces du sujet érotique, déborde les catégories identitaires, enfin déborde les catégories tout court. Les amantes, par exemple, se définissent uniquement par leur disposition à l'amour. Je cite le brouillon. « Les amantes sont celles qui, éprouvant un violent désir les unes pour les autres, vivent, aiment, dans des peuples, suivant les vers de Sappho. » Donc c'est vraiment une définition minimale. Aussi, chez Cixous, celles qu'elle va appeler les désordonnantes dans le rire de la Méduse, en fait, se définissent, en tant que sujet politique, par un agir, celui de donc, mettre du désordre, troubler les structures du phallocentrisme, et ce notamment par l'écriture. Une écriture qui, même si elle sera dite féminine, est impossible à définir. Et Cixous le dira elle-même, c'est une écriture qui excédera toujours le discours que régit le système phallocentrique. C'est une citation. Et cette question de l'écriture me permet donc de faire un dernier rapprochement entre les deux écrivaines, puisque chez toutes les deux, c'est par l'écriture que se produisent des déplacements dans le champ social et politique. Je terminerai là-dessus. Dans un écrit consacré au problème du contrat social, Wittig montre que le contrat social de Rousseau présuppose un contrat hétérosexuel implicite qui produit une division et une hiérarchisation entre les hommes et les femmes. Dans sa lecture de Rousseau, elle souligne combien le contrat social se maintient, se perpétue, à travers sa réactualisation constante. C'est-à-dire qu'il est répété, réitéré, rejoué à chaque instant par les membres contractants, et que c'est ça, en fait, qui le naturalise. C'est ainsi que, suivant les travaux de Aranzazu Hernández Piñero, nous pouvons envisager les fictions de Wittig, comme par exemple les guerrières ou le brouillon pour un dictionnaire des amantes, non pas comme des utopies au sens traditionnel du terme, mais comme des fictions poétiques et politiques qui contribuent à déplacer ici et maintenant les termes du contrat social. Chez Cixous aussi, c'est par le travail de l'écriture, au plus près de la matérialité de la langue, que se jouent les transformations d'ordre politique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment chez les deux un agir sur le présent par l'écriture. Je cite Cixous, « S'il y a un ailleurs qui peut échapper à la répétition infernale, c'est par là où ça s'écrit, où ça rêve, où ça invente des nouveaux mondes. » Dans le même texte, elle dira, « L'écriture, c'est la possibilité même du changement, l'espace d'où peut s'élancer une pensée subversive, le mouvement avant-coureur d'une transformation des structures sociales et collectives. » Fin de citation. En ce sens, je terminerai juste par dire que lorsqu'il s'agit de Monique Wittig et d'Alain Cixous, écrire, vivre, aimer sont des manières d'agir sur le monde. Et je rajouterai aussi un autre verbe d'action, lire, parce que vraiment, c'était des écrivaines, mais c'était aussi des lectrices. Et donc voilà, je pense que ça fait aussi le lien avec le thème de notre panel qui s'appelle « Relire les traditions ». Donc voilà, ce qu'on fait, lire, relire, écrire, écrire. Voilà, merci beaucoup.